Alors, ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean, au chapitre 2. Et je pense que dans les prochaines semaines, prochains mois, on va passer du temps dans cet Évangile, l'Évangile de Jean. Et ce matin, on va lire les versets 1 à 11, le récit des noces de Cana. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue ». Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira ». Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres » et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors le récit de ce texte commence par une mention de temps. Vous l'aurez remarqué, il est dit « Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana, en Galilée. » Évidemment, s'il est écrit que c'est le troisième jour, c'est qu'il y a 2 jours qui l'ont précédé. Et le but de cette mention du troisième jour, c'est de relier ce texte de Jean 2 à ce qui vient de se produire avant et qui est décrit dans Jean 1. Que s'est-il passé dans la vie de Jésus, dans son parcours, 2 jours avant et puis la veille? On va d'abord s'intéresser à cela. L'avant-veille du troisième jour, on se trouve en présence de Jean-Baptiste. On va lire Jean 1, 35 à 40. Nous sommes ici 2 jours avant les noces de Cana. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie « Maître, où habites-tu ? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils y allèrent donc, virent où il habitait, et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Ce qui correspond à Christ, et il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. » Alors il y a 3 choses qui se sont produites, 2 jours avant les noces de Cana. D'abord, la première, c'est que Jean-Baptiste a identifié Jésus comme le Messie. Il devait venir. Voici l'agneau de Dieu. On voit à quel point Jean-Baptiste avait compris quelle était la mission du Messie, parce qu'il parle déjà de l'agneau de Dieu qui va être offert en sacrifice pour le péché du monde. Jésus est donc identifié comme le Messie. Deuxième chose, 2 disciples de Jean se mettent à suivre Jésus et à vivre une rencontre avec lui pendant une journée ou quelques heures. Et ces quelques heures de contact avec Jésus suffisent pour qu'ils comprennent et qu'ils affirment qu'ils croient, comme Jean-Baptiste leur dit, que Jésus est le Messie. Ce qui est intéressant dans ce récit, c'est que les disciples, les premiers disciples de Jésus, ont cru sans avoir rien vu encore. Il n'y a pas eu de prodige, il n'y a pas eu de miracle. Ils ont quelque part vécu 2 heures, 3 heures avec Jésus et ils ont aussitôt été convaincus que Jésus est le Messie. La troisième chose, c'est que André, l'un de ses disciples de Jean, va voir son frère Simon et il lui dit: Nous avons trouvé le Messie. Il commence à témoigner. Jésus rencontre Simon, il le recrute. Et il lui fait une promesse: tu ne seras plus appelé, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Jésus commence à former son équipe et il commence à montrer quelque part qu'il est capable de changer les gens. Tu ne seras plus ce Simon, tu vas être appelé Céphas. C'est une promesse, hein. 2 jours avant les noces de Cana. La veille, le récit continue, on se trouve dans Jean 1, verset 43, le recrutement continue, en quelque sorte. La première équipe se forme. Après André et Simon-Pierre, Jésus rencontre Philippe, et il appelle Philippe, il lui dit: Suis-moi. Philippe rencontre Nathanaël, verset 45, et rien que de rencontrer Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans aucun signe, sans aucune preuve puissante, sans aucun miracle, il lui dit: Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël n'est pas comme les autres, il lui faut un peu plus pour croire. Ça ne lui suffit pas que les autres lui ont dit: Nous avons trouvé le Messie. Il dit: Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui dit: Ben, viens et vois. Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et il lui dit: Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse, pas de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répond: Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier tout seul, peut-être en train de méditer, penser quelque chose, eh bien moi je t'ai vu. Nathanaël répond: Maître, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. À son tour, il est convaincu. Jésus fait alors une déclaration importante. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. En vérité, je le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Jésus leur dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore vu grand-chose. Vous m'avez cru. Ce que vous avez entendu de moi a suffi pour que vous croyiez. Mais à partir de maintenant, les choses vont changer. Vous verrez de grandes choses. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alors, ce que Jésus dit ici n'est pas nouveau. C'est pas quelque chose qu'il a inventé, cette histoire, mais il fait référence ici à une vision que Jacob a eue, le père d'Israël, le père du peuple juif. Et c'est intéressant de faire le parallèle entre le moment où Jacob a reçu cette vision et le moment où nous sommes ici dans ce récit. Jacob a fait un rêve alors qu'il était en fuite. Vous vous rappelez, hein, je ne vais pas rappeler toute l'histoire. Il y avait eu cette histoire d'héritage, de bénédiction que Jacob avait volé à son frère Ésaü. Et quand Ésaü a vu cela, il voulait tuer Jacob. Jacob a dû s'enfuir de sa famille. Et donc, alors qu'il est là, face à l'inconnu, au départ d'une nouvelle aventure, en quelque sorte. Jacob ne sait pas du tout ce qui va se passer pour lui dans l'avenir. Dieu le visite, il fait un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre, son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Vous trouvez ça dans Genèse 28, 12 à 15. Et l'Éternel est au-dessus de l'échelle, il fait des promesses. Il lui promet d'être avec lui tous les jours dans ses déplacements, de le garder et de le ramener un jour dans son pays, de ne jamais l'abandonner. On peut dire que la vision qu'a reçue Jacob, elle est très semblable à celle que Jésus, en tout cas les promesses qui sont dans cette vision, sont très semblables aux promesses que Jésus veut donner aux disciples avant qu'ils s'aventurent avec lui. Les disciples commencent un nouveau chemin. Ils ne connaissent rien de ce qui va se passer pour eux dans l'avenir. Ils sont face à l'inconnu. Mais le Dieu de Jacob est le Dieu de Jésus. C'est le même. C'est un Dieu qui d'abord apporte sa grâce à Jacob. Dieu ne fait pas de reproche à Jacob. Il lui dit, il lui reproche pas sa fuite à cause de son péché. Il lui offre sa grâce. Il l'assure de sa fidélité et de sa présence jusqu'à la fin de sa vie. C'est un peu ce contrat que Jésus veut aussi signer avec les disciples, les premiers disciples, qu'il entraîne derrière lui dans cette aventure de la foi. Et pour leur assurer, en quelque sorte, de la pérennité de cette alliance, Jésus leur fait cette promesse. Ils verront le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur lui. Jusqu'à présent, vous n'avez rien vu, mais vous allez voir que votre foi était valide, était juste. Vous allez voir l'œuvre de Dieu à travers moi. Et vous allez en être témoin. Vous verrez désormais, il leur dit. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Il est intéressant de noter que c'est surtout à Nathanaël que Jésus dit cela, à l'ensemble des disciples, mais aussi à Nathanaël. Et Nathanaël, dans Jean 21, verset 2, on apprend qu'il vient de Cana, en Galilée, dans cette ville où Jésus va pour la première fois montrer sa gloire, il est dit. Le récit des noces de Cana, même s'il a pour but de répondre à une situation de difficulté pendant ce mariage, il vise surtout une chose. Il vise surtout les disciples. D'ailleurs, c'est écrit à la fin que ses disciples crurent en lui. Le miracle des noces de Cana n'est pas un miracle public, c'est un miracle pour les disciples, pour qu'ils voient sa gloire, qu'ils soient confirmés dans leur foi par les œuvres que Jésus fait. Et d'ailleurs, on a presque dans le récit de Cana le fil rouge de tout l'évangile de Jean. Quel est le but de l'évangile de Jean? On va lire dans Jean 21, verset 2. Pourquoi est-ce que les évangiles nous ont été donnés? Non, ce n'est pas Jean 21, verset 2, c'est verset... C'est Jean 21. Voilà ce que c'est quand on ne se relit pas. Ces choses ont été écrites, c'est dans Jean 20, 31. Voilà. Mais ceci, Jésus, on va lire verset 30, Jésus a accompli encore. Regardez ce qui est écrit. En présence de ses disciples. Beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. En fait, l'évangile de Jean nous raconte les miracles que Jésus a faits en présence de ses disciples. En présence de ses disciples. C'est surtout pour les disciples que Jésus a fait tous ces signes. Parce que leur mission, c'était de raconter ensuite tout ce qu'ils avaient vécu avec lui, pour que nous croyions que Jésus est le Christ et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Le but des disciples, c'est d'être les témoins des signes qui valident, qui démontrent que Jésus est bien le Christ. Et le premier de ces signes s'est produit donc à Cana, le jour des noces de Cana. Alors on va s'arrêter sur les leçons qu'on peut retirer maintenant de ce récit de Jean 2, puisque c'est la première fois que Jésus manifeste sa gloire, il est dit. Première leçon, donc, c'est que Jésus est invité aux noces avec ses disciples. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples, écrit au verset 2. C'est toujours une bonne chose quand on fait une fête, une rencontre familiale, d'inviter Jésus à y participer. Les mariés ne savaient peut-être pas qui était Jésus, mais peut-être ils vont l'apprendre par après. Si Jésus n'avait pas été là, la fête aurait été gâchée quelque part. La présence de Jésus a évité l'embarras et le gâchis, l'embarras des mariés face à ce problème de pénurie de vin, et elle a contribué, la présence de Jésus, à faire de cette fête une réussite. C'est très important que Jésus soit présent dans nos vies, dans tout ce que nous vivons. La seule présence de Jésus, même silencieuse, même discrète, peut suffire à ce que la fête de la vie ne soit pas gâchée. Jésus est celui qui est capable de pallier à toutes les difficultés, tous les problèmes, toutes les choses qui peuvent se mettre au travers du chemin et gâcher la vie. L'organisateur du repas dira aux mariés: Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré, mais toi tu nous as fait une sacrée surprise. Tu as gardé le meilleur pour la fin. Alors ça, c'est aussi une leçon qu'on apprendra et qu'on apprend de plus en plus avec Jésus, c'est que le meilleur est pour la fin. Jésus, quand il est présent dans nos vies, on peut être sûr que la fin sera la meilleure chose. Le meilleur est devant nous. On va y revenir plus tard. Ce qu'il nous faut retenir, c'est que Jésus se laisse inviter au milieu de nous. Il a été invité. Et la deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas refusé l'invitation qui lui a été adressée. Je crois que c'est important, cette réalité-là, c'est aussi une source d'enseignement pour nous. Peut-être dans notre cœur, nous pourrions nous dire, mais est-ce que c'est vraiment la place de Jésus d'être dans une noce, une fête joyeuse, où il va y avoir de l'alcool? Est-ce que ça correspond bien à ce qu'il est? Eh bien, Jésus ne refuse pas de se rendre à la noce de Cana. Il nous donne une leçon sur la perception que nous devons avoir d'une vie sainte dans ce monde. En fait, si Jésus est devenu homme, ce n'est pas pour vivre séparé des autres, distant des gens, de leur humanité, de leurs coutumes, de leurs habitudes. Jésus tient à se mêler au monde, au milieu de nous, il est. Au temps où Jésus vivait, peut-être vous le savez, il y avait de nombreux groupes religieux qui avaient une autre notion de la pureté et de la sainteté. C'était les pharisiens et les esséniens. Alors les esséniens, vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais je vais en toucher un mot. Les pharisiens sont plus connus et le mot pharisien signifie, vous le savez, pur ou séparé. Voilà. Et les pharisiens se distinguaient du reste de la population par le fait de ne pas se mêler aux autres. Ou au minimum, il ne fallait pas toucher les autres, se mêler à eux, parce que par le contact avec eux, on allait être souillé. Les Esséniens allaient encore beaucoup plus loin, et ils méprisaient d'ailleurs les pharisiens, parce qu'ils trouvaient qu'ils n'étaient pas assez séparés. Les Esséniens vivaient en autarcie dans des grottes, loin des populations civiles. Ils s'appelaient les uns les autres les fils de la lumière, parce que tous les autres, c'étaient les fils des ténèbres. Hein. Jésus est le vrai fils de la lumière, mais contrairement aux pharisiens et aux esséniens, il ne cherche pas à vivre reclus ou séparé du reste des hommes. Il se mêle à la population. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans les évangiles, on lui fait le reproche d'être trop près des gens. Trop près des gens. Trop presque semblable à eux. Enfin, c'était plutôt pour se moquer. Mais dans Matthieu 11, versets 16 à 19, il y a une comparaison que Jésus fait entre Jean-Baptiste, qui était plus séparé des gens que lui, et lui. Matthieu 11, 16, 19, il dit « À qui comparais-je cette génération ? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques qui s'adressent à d'autres enfants en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons entonné des chants funèbres et vous ne vous êtes pas lamenté. » En effet, Jean est venu, il ne mange pas, ne boit pas, et l'on dit « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit « C'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs. » Qu'on fasse d'une façon ou d'une autre, ça ne va pas de toute façon. Mais Jésus mange et boit. Il n'est pas différent des gens ordinaires. Il ne fuit pas le contact avec les autres. Il ne refuse pas les invitations qu'on lui lance. Mais Jésus a la capacité de savoir en toutes circonstances comment se comporter. Il ne se livre pas aux excès des autres, mais il est prêt à partager avec eux leur joie dans leur fête. Jésus a été invité à de nombreuses tables. Il a mangé chez Simon, le pharisien, chez Matthieu, le publicain, peu importe. Son but était de manifester son amour, son intérêt pour les autres, et il était prêt à non pas se séparer d'eux, mais à partager avec eux les moments de fête. Le chemin facile peut parfois être celui de la séparation. On ne veut pas se mélanger parce que, voilà, on ne saura pas trop comment se comporter, etc. Mais ce n'est pas le chemin que suivait Jésus. Jésus cherchait à côtoyer les gens parce qu'il voulait leur montrer son amour et les sauver. Et souvent, là où il était invité, c'est là que le témoignage a brillé dans sa vie. Parce qu'il était différent des autres et qu'il était quand même là, au milieu d'eux. Il ne les condamnait pas, il ne les jugeait pas, il les aimait. Et c'est à travers sa présence qu'ils ont été touchés par son amour. Première leçon, donc, qu'on apprend, c'est que Jésus est invité et qu'il ne refuse pas de venir aux noces. Une deuxième leçon que nous donne le texte, c'est une leçon sur la relation qu'il y a entre Jésus et Marie, sa mère, puisque sa mère aussi est présente, elle est invitée. On ne sait pas si Jésus a remarqué le problème qu'il y avait, le premier, mais en tout cas c'est Marie qui, la première, le rend conscient qu'il y a un problème au cours des noces. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Ce n'est pas vraiment une demande. Marie ne formule pas un espoir, quelque chose, une demande particulière, mais elle sous-entend quand même quelque chose. Jésus le perçoit. Elle lui dit, en quelque sorte, est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose? Regarde, ils n'ont plus de vin. Comment est-ce que Jésus va réagir à cela? D'abord, il faut souligner que si telle était la pensée de Marie, si elle pensait vraiment que Jésus pouvait faire quelque chose, c'est qu'elle avait aussi dans son cœur la foi en ce que Jésus était. Hein? Marie faisait partie des disciples de Jésus parce qu'elle croyait en sa capacité, en son pouvoir. Elle avait reçu la révélation qu'il est le Fils de Dieu, bien sûr, par la naissance. Et elle se disait que peut-être il était temps pour lui de faire quelque chose, de montrer qui il était. Jésus va répondre un peu durement à sa mère, mais de façon exacte et juste. Il l'appelle femme. Vous aurez remarqué, que me veux-tu, femme? Il n'a pas dit que me veux-tu, maman. Femme, c'est le nom que Jésus utilise quand il s'adresse aux femmes en général. À la Samaritaine, il lui dira femme. À la femme adultère, femme. Ces pharisiens t'ont-ils condamné? Ces hommes t'ont-ils condamné? Ce que Jésus veut montrer, c'est que sur le plan spirituel, Marie est comme les autres. Elle est une femme. Elle ne peut pas décider de ce que Jésus doit faire. C'est Jésus seul qui peut le faire et qui peut le décider. Marie n'a pas de prérogative pour dicter à Jésus le miracle qui convient de faire à ce moment-là. Et Jésus lui dit quelque chose d'important. Il lui dit, mon heure n'est pas encore venue. Alors si vous lisez l'évangile de Jean, et on y reviendra, c'est vraiment un fil conducteur tout le long de l'évangile de Jean, l'heure de Jésus. Plusieurs fois, il dira, mon heure n'est pas encore venue. Et puis à un moment, il dira, mon heure est venue. Quand est-ce qu'il dira ça? Eh bien, on trouve ça dans Jean 12, versets 20 à 24. C'est au moment où des non-juifs, des Grecs viennent vers Jésus, vers les disciples, pour dire, nous voudrions voir Jésus. Et Jésus dit alors, mon heure est venue. Mon heure est venue de manifester publiquement qui je suis, pour que non seulement les Juifs, mais les non-Juifs puissent être aussi sauvés. Dans Jean 7, il n'y a pas simplement la mère de Jésus, mais les frères de Jésus qui lui disent, montre-toi au monde. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Je pense que l'intention de Marie, c'était de dire à Jésus, mais peut-être que c'est le moment de faire quelque chose pour que les gens comprennent qui tu es, le Messie. Et les disciples, les frères de Jésus, quand ils s'apprêtent à monter à la fête à Jérusalem, ils ont le même discours. Mais si tu veux que les gens te connaissent et croient, eh bien, montre-toi, agis. Ne fais pas les choses en secret. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. La réponse de Jésus à Marie, sa mère, nous montre que Jésus est totalement souverain dans la façon d'agir. Personne ne peut lui dire quand et comment il doit agir. On peut présenter nos besoins à Jésus. Mais on ne peut pas lui dicter le moment où il va agir et comment il va agir. D'ailleurs, Marie l'a bien compris, qui dira au serviteur, faites ce qu'il vous dira. C'est lui qui décide, c'est pas moi. Je crois que c'est important. Je sais pas si vous avez déjà vu dans des vidéos des gens qui vous disent Eh bien, dans 3 jours, Jésus va faire quelque chose pour toi. Dis Amen. Et puis ça se réalisera. Hein. Mais c'est tout à fait contraire à ce texte et à la souveraineté de Jésus. Bien sûr, nous vivons dans la foi, nous prions, nous remettons les choses, mais c'est lui qui est libre et souverain pour dire quand et comment il va le faire. Nous ne pouvons pas imposer à Jésus son agenda. C'est Jésus qui est maître de son agenda et de la façon avec laquelle il va agir. Une autre leçon que nous pouvons retenir, elle est liée au miracle lui-même, l'eau changée en vin. De quoi ce miracle témoigne-t-il? Eh bien, la première chose, il manifeste le pouvoir créateur et même recréateur de Jésus. La gloire de Jésus, c'est de pouvoir recréer ce qui existe et en faire autre chose. Jésus est venu pour changer la nature des choses et en faire autre chose. Et l'apôtre Paul nous dit, si quelqu'un appartient à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, révolues, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Le sujet de gloire principal de Jésus est dans sa capacité de changer la nature, non seulement des choses, mais des êtres aussi. Jésus peut transformer un pécheur et en faire un saint. Il peut délivrer un voleur et en faire un homme honnête. Jésus peut changer un orgueilleux, comme l'apôtre Paul l'était, pour en faire un homme humble, un serviteur. Il peut libérer un homosexuel de ses penchants pour en faire un homme libéré de ses tendances mauvaises. Il peut faire d'un paresseux un travailleur, d'un blasphémateur quelqu'un qui loue Dieu. Il peut changer le cœur d'un persécuteur pour en faire un apôtre, comme ce fut le cas pour Paul. Et Jésus avait déjà commencé à montrer ces choses en disant « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Pierre. Je sais qui tu es. Je te prends tel que tu es. Pierre brut, et je vais faire de toi un roc, Pierre. » C'est la première chose qu'on peut déduire du miracle de Jésus. Jésus transforme, recrée. Et c'est vraiment l'objectif de la venue de Jésus. Il est venu introduire une nouvelle humanité. J'en ai déjà parlé, il est le second Adam. Hein. Il transforme les premiers hommes, Adam, et descendants d'Adam, en fils de Dieu. Deuxième chose qu'on apprend, c'est que la nouvelle création que Jésus fait est excellente, comme le vin qu'il a fait. C'est intéressant de voir que la qualité du vin que Jésus a, de l'eau que Jésus a changée en vin, était supérieure à tout ce que l'organisateur du repas avait connu jusque-là. L'eau est assez insipide, n'est-ce pas? Ça n'a pas de goût. J'ai appris, en préparant ce message, que le vin est composé d'au moins 1500 matières différentes. Certains vins, en tout cas. Donc il y a non seulement une richesse de goût, mais encore des vertus, des quelque chose de tout à fait nouveau dans le vin par rapport à l'eau. Une épaisseur que l'eau ne peut pas produire, un goût. Tout cela pour nous dire que Jésus veut donner une qualité de vie à ses disciples. Il va les faire sortir d'une vie insipide, qui n'a pas de goût. La vie nouvelle que Jésus nous donne est d'une qualité supérieure à toutes les autres. Nous pouvons chercher partout dans le monde, nous ne trouverons rien d'équivalent à la qualité de vie que Jésus nous donne. Et c'est à nous, en tant que chrétien aussi, de donner envie de cette vie à ceux qui sont autour de nous. L'apôtre Pierre nous dit que si nous avons goûté que le Seigneur est bon, alors faisons-le connaître autour de nous. Si nous avons goûté, et nous devons prier peut-être que pendant cette année, ben, le Seigneur nous donne de donner envie aux gens qui sont autour de nous, de connaître ce Jésus qui est dans nos vies. Je ne sais pas pourquoi, la plupart du temps, les gens pensent que la vie chrétienne est insipide. Moi, je me souviens de mes frères qui m'ont dit « Mais toi avec ta Bible et ta vie de prière, ça ne nous donne pas envie. Préfère aller au concert, la musique, mais je vois leur vie se dégrader. Je vois la mienne se bonifier, je dirais. Et on doit, avec le temps, en tout cas, manifester que la vie chrétienne vaut vraiment la peine, qu'il n'y a pas une meilleure vie que celle-là. Troisième chose qu'on apprend de ce miracle, c'est que les miracles, les dons de Jésus, ne sont pas chiches, chiches ça veut dire pauvre, hein, mais abondants. Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Ces jarres étaient vides. Jésus aurait pu dire « mettez une jarre ». Des 6 jarres ont été remplies. Ça faisait 600 litres. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'autant? La Bible dit que Dieu pourvoit à nos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Lorsque Dieu donne, il ne le fait jamais de façon avare. Pas un centime de plus que ce qu'il faut. Vous aurez remarqué que lorsqu'il y a eu la multiplication des pains, il y avait toujours du reste. Ils ont dû ramasser parce qu'il y en avait trop. La bénédiction de Dieu, elle témoigne de sa générosité envers nous. Dieu aime donner avec joie. Il aime procurer du bonheur. C'est plus que nécessaire. Alors, je dirais que nous avons commencé à goûter la bénédiction de Dieu dans cette vie. Nous avons puisé quelques verres de vin et nous continuons chaque jour à en boire de ce vin du royaume de Dieu. Mais il y a encore 600 litres et il y en aura encore beaucoup plus dans le royaume de Dieu. Imaginons ce que seront les noces de Jésus lui-même. Si déjà à Cana, auprès de personnes qui n'étaient pas connues forcément de lui, eh bien Jésus a pu apporter un tel don à cette famille. Jésus nous promet aussi des festins succulents dans le ciel. Je vais vous lire 3 versets. D'abord, Jésus nous dit dans Matthieu 8, 11, « Beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Ésaïe 25, verset 6, « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur sa montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin clarifié. » Et dans Apocalypse 19, « Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. » Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant et pur. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Au fond, les noces de Cana sont un avant-goût. C'est le début du premier miracle de Jésus, mais tout y est déjà. Ce miracle nous rappelle que Jésus a la capacité de changer la nature des choses. Jésus est venu pour apporter l'abondance et la qualité dans la vie de ceux qui le reçoivent, qui l'accueillent. Il veut que notre relation avec lui soit comme une fête, en quelque sorte, où son amour, son abondance déborde. Il veut nous remplir de joie, non pas par le vin, mais par son esprit, qui est une image du vin dans la Bible. Alors ce que j'espère dans cette année, c'est que nous puissions goûter à cette plénitude, à la joie qu'il nous donne, et que notre cœur se prépare aussi à la fête qui vient, parce que le Seigneur va revenir et il va nous prendre avec lui pour vivre cette fête éternelle dans son royaume. Voilà, que le Seigneur vous bénisse encore ce matin. Amen.